Gabriel est musicien et choriste qui nous ont ce matin donné main à élever nos cœurs, à se préparer, se disposer à notre temps de célébration ce matin. Alors bonjour à tous et pour commencer, j'ai une petite histoire. Comme on le voit dans le début de certains films, hein? Il était une fois dans une petite ville loin, loin, loin. Alors, c'est l'histoire d'un couple. On va les appeler Paul et Sandra. Nouvellement arrivés dans une petite ville du sud de l'Ontario. Et chaque dimanche matin, le couple visite une nouvelle église à la recherche d'un foyer spirituel dans lequel eux et leurs trois enfants pourront grandir et servir l'Église du Seigneur. Et c'est alors que par un matin de chaleur et d'humidité torride, ils sont dans cette Église de près de 200 membres et qui ne possède aucun air climatisé. La chaleur était difficile à supporter par moment et Paul remarque que plusieurs ventilateurs étaient installés au plafond, mais qu'aucun d'eux ne fonctionnait. Il se disait en lui-même, mais pourquoi les ventilateurs ne fonctionnent pas? Et la célébration se termine et plusieurs personnes les entourent, c'est des visiteurs, et ils les entourent rapidement pour leur souhaiter la bienvenue et les entourer pour qu'ils se sentent bien accueillis. Et la question des ventilateurs passe à l'oubli. Paul et Sandra sont de retour quelques semaines plus tard et même scénario. La chaleur et toujours pas de ventilateur qui fonctionne. Paul se disait qu'il pourrait peut-être aider l'Église à les remettre en marche s'il s'agissait d'un problème technique. Hein, Paul est en mode solution, lui-là. Et il y a un diacre à un moment donné qui lui fait faire une visite du bâtiment. Et Paul remarque, dans un des corridors, la switch, l'interrupteur principal des ventilateurs. Mais juste au-dessus, il y avait un écriteau en rouge. « Ne pas toucher! » Point d'exclamation. Et là, ça intriguait vraiment Paul. Et il voulait comme un peu questionner le diacre à cet effet-là, mais il évitait la question et la conversation prend une autre direction. Puis c'était la même chose du côté de Sandra, qui était entourée des femmes de l'Église et qui, elle-même, détournait aussi la question et parlait, voulait discuter de la maison, des enfants, etc. Alors, lors de la visite du pasteur, on va l'appeler Pasteur John, visite du pasteur à domicile, vers la fin de la rencontre, Paul et Sandra soulèvent la fameuse question des ventilateurs et ils le menacent presque de ne pas pouvoir partir jusqu'à temps qu'il leur donne une réponse. Alors, Pasteur John tourne tranquillement, doucement les pages de sa Bible et il lit. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Voilà donc l'explication toute simple. Ce sont les œuvres de la chair, répond le pasteur, en ajoutant que les ventilateurs immobiles sont pour nous le souvenir constant de cette nature qui nous habite, capable des œuvres de la chair qui ont mené à une importante division dans l'Église il y a de ça 3 ans. La légère souffrance que nous cause la chaleur le dimanche matin nous fait naturellement lever les regards vers le plafond et nous rappelle à quel point l'Église a souffert lors de cette division. Paul et Sandra regardent le pasteur d'un air très étonné. Et ils se demandaient comment de simples ventilateurs auraient pu être aussi ravageurs dans une Église. Le pasteur explique que lors d'une réunion générale annuelle, quelques personnes se sont plaintes que les ventilateurs ne tournaient pas dans le bon sens, car l'air devait circuler dans l'autre direction. Une autre personne fait rapidement le commentaire que ceux qui se plaignent sont généralement ceux qui font rien pour arranger les choses. Un autre se fait entendre disant que les ventilateurs n'avaient pas été un bon achat. Et une personne très influente dans l'Église a mentionné que le Seigneur et ses disciples ont enduré la chaleur et n'ont jamais eu de ventilateur et que c'est un manque de maturité spirituelle que de désirer ces choses. Le débat s'est transporté en dehors de la réunion pendant quelques jours et a ravivé d'anciennes querelles. Des blessures du passé non réglées, jusqu'à ce que la direction de l'Église perde le contrôle et qu'éventuellement un petit groupe se ligue pour exiger la démission des deux pasteurs et des diacres. Plus de 75 % des membres avaient alors quitté l'Église à ce moment-là en trois groupes qui n'osaient plus se parler. Avec le temps, le pardon et de nombreux efforts de rapprochement, de réconciliation, environ de la moitié de ceux-ci sont revenus. Alors voilà, dit le pasteur, les ventilateurs immobiles sont un souvenir qui nous rappelle à quel point nous sommes pécheurs. Paul et Sandra étaient bouche bée, comme ça, devant cette explication. Ils terminent la rencontre dans un temps de prière et lorsque le pasteur était sur le point de quitter, vous savez, il y avait la main sur la poignée de porte. Et là, Paul avait une question avant de partir. Il dit, « Pasteur John, ne partez pas. » Il dit, « J'ai une question. » Il dit, « Est-ce que les membres de l'Église ont le droit d'avoir l'air climatisé à la maison? » Il se demandait jusqu'où ça pouvait aller. Alors, les œuvres de la chair, c'est peut-être pour vous une expression très étrange. Je peux l'admettre. Mais voici une autre façon de le dire. Les œuvres de la chair, hein, c'est-à-dire ce que sont nos paroles et nos actions qui ne sont pas dirigées ou menées par l'Esprit de Dieu. Ce sont ces paroles et ces actions qui sont le résultat de nos pensées qui ont pris naissance dans le creux et les profondeurs de notre nombril. Ça ne vient pas de Dieu. En fait, on a hérité de cela. Qu'on le veuille ou non, de naissance, notre programmation humaine va produire ces choses-là naturellement. C'est comme le poil en dessous des bras qui va pousser. C'est inévitable. C'est là. Mais quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Les œuvres de la chair. Alors, on lit dans Galates, chapitre 5, les versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont évidentes. Hein, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bon là, c'est certain, il faut faire attention à certains termes ou à certains mots que l'auteur a utilisés. Car n'oublions pas qu'il y a toujours un contexte dans lequel les mots ont été pris, une culture, les mœurs, qui ont influencé l'auteur à cibler certains choix de mots. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître le contexte pour saisir le sens de certaines expressions. Hein? Aujourd'hui, si vous sortez de table et vous avez l'impression d'avoir avalé un ballon de football, la poutine extra large, extra fromage, hein, ma mère disait d'avoir les yeux plus grands que la panse. Hein? C'est pas ce à quoi l'apôtre faisait référence à ce qu'il mentionne nécessairement acceptable. Hein? On parle plutôt de ces soirées, ces fêtes organisées et où on mangeait délibérément à se rendre malade et même au point à rejeter son repas et pour pouvoir continuer. Et il y avait aussi d'autres activités qui entouraient le repas et qui faisait partie du menu à la carte, si on peut dire. On n'ira pas dans les détails. Mais moi, ce matin, je cible les choses suivantes. Querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie. Là, sans vouloir scandaliser personne, mais plusieurs d'entre vous ici comprenez très bien que j'ai regroupé les catégories de disciplines sportives dans lesquelles on peut parfois et malheureusement exceller dans l'Église. Et ça, entre nous, et pas secrètement, parfois même ouvertement. Querelle, animosité, dispute et des choses semblables, dit Paul. Et parfois, ça prend juste des ventilateurs qui tournent dans le mauvais sens pour mettre le feu aux poudres. Et on est tous des barils de poudre remplis des pensées de la chair et qui sont prêtes à exploser en œuvre de la chair. Et ça n'arrive pas seulement à l'Église, hein? Ça se produit chez nous, dans nos maisons. Vous devriez entendre parfois mes pensées, hein? Entendre mes pensées quand Marlène fait juste me dire « Regarde le voisin, chéri, comment son patio il est beau, tout repeinturé. » OK, c'est important de remarquer ici que c'est la femme qui a été le déclencheur. Et l'homme dans sa sagesse, pour répondre, « Chérie, tu sais, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça parce que je suis trop occupé à faire le ménage et les poussetages dans la maison. » OK, et là, la bagarre poigne. Écoutez, on fait des farces, hein? On peut faire des farces avec ça, mais dans l'Église, c'est parfois vraiment, vraiment triste à cet égard-là. Et des chrétiens qui ont des désaccords, c'est normal. On en a tous des désaccords. Mais ces désaccords-là qui se transforment en conflits, ça, c'est quelque chose de spécial. Regardez la définition de Larousse. Qu'est-ce que ça dit à propos de conflit? Je l'aime bien celle-là. Regardez, violente opposition de sentiments, d'opinions et d'intérêts. Hein? Une violente opposition. OK, sans nécessairement se rendre au niveau de la violence physique, on peut dire violent dans le sens de que c'est chargé d'émotions. C'est chargé parfois de colère. C'est chargé de frustration. Et parfois même de mépris. Et pourtant, la parole de Dieu, la Bible nous dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et Paul, dans sa lettre aux Philippiens, écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Chapitre 2, verset 5. Et il y a même trois versets semblables dans la lettre de Paul aux Romains. Mais coudonc, c'est quoi notre problème? Hein? Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans notre affaire. Ça n'a comme pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens quand on y pense. Comme je disais, oui, c'est normal d'avoir des désaccords, mais que ça se transforme en conflit, en violente opposition, en querelle, en dispute, en division. Comment se fait-il que des hommes et des femmes habités de l'Esprit de Dieu, des enfants de Dieu, arrivent à ce point-là? Des personnes qui ont fait la paix avec Dieu et qui sont réconciliées avec Dieu. Et de ce fait même, ils sont réconciliés avec le peuple de Dieu. Ça va ensemble, ça. Et malgré ça, on est incapable de maintenir des relations paisibles avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, premièrement, il y a une logique dans ça qu'il faut comprendre. Il y a une logique. Et si les premiers chrétiens se font avertir de cela par Pierre et Paul dans leurs lettres, on sait que le problème existait dès le début de l'Église. Sinon, ils n'auraient pas parlé. Si le problème n'existait pas, ce n'était pas nécessaire de l'écrire. Mais c'est rien de nouveau. Comme on l'a entendu même dans le passage que le pasteur John a lu, hein, on sait que même au sein des apôtres, avec qui Christ était lui-même en personne au milieu d'eux, ces choses-là arrivaient. Fait que si eux en étaient capables, nous autres aussi, on n'est pas moins bons qu'eux autres. Alors si eux, et même Paul et Barnabas, qui ont eu une chicane, et qui se sont séparés par la suite. Donc, deuxièmement, il faut être conscient que les œuvres de la chair peuvent ressurgir spontanément, ponctuellement, même chez le croyant qui appartient au royaume de Dieu. Soyez pas surpris. Mais là, j'ai bien dit ponctuellement, hein? J'ai pas dit tout le temps. Si la personne qui se dit croyant, qui est animée d'un esprit conflictuel dans ses relations avec les autres, là, il y a lieu de se questionner. Hein? Là, il y a un drapeau rouge. Puis peut-être que c'est le temps de mettre la signalisation orange puis les cônes oranges pour signaler une zone de reconstruction chez cette personne. Ce que l'on doit observer chez le croyant, c'est le fruit de l'esprit. L'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure en celui qui est sauvé. Si l'Esprit de Dieu qui nous habite, s'il n'est pas trop amoché, s'il n'est pas trop étouffé ou même éteint, mais cet Esprit de Dieu nous habite, c'est inévitable que le croyant va produire du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et dans Éphésiens 5, 9, Paul écrit le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et en Colossiens 1, 10, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Tout ce qu'il faut pour assurer et garantir des relations paisibles les uns avec les autres. Mais comment on en arrive à ça? Comment on peut se garder des conflits? Alors ce matin, attendez-vous pas à recevoir comme une méthode en 6 étapes où vous allez être tous capables de produire des fruits d'esprit en 90 jours ou argent remis. Il n'y a rien de tel, mais il y a un fondement à ça. À la base, il faut comprendre que premièrement, nous en sommes tous naturellement incapables. On est tous à la base des mauvais arbres. On parle d'arbres à fruits, là. Vous entendez? Il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits, mais si on parle d'arbres à fruits, on est des mauvais arbres. On est comme par exemple, des petits plants de tomates. Des plants de tomates qui ont l'air toutes malades. Des fouettes avec les feuilles jaunes. Ça, vous savez que vous n'aurez pas de sandwich au mois d'août avec ça. Quand un plant, nous autres, chez nous, quand un plant donnait des mauvaises tomates, mon père disait, on ne prendra pas les graines de ce plant-là parce que l'année prochaine, ça ne fera pas des belles tomates. Hein? C'est de la mauvaise graine. C'est ce qu'on est à la base. Mais regardons ce que le Seigneur Jésus nous enseigne à ce propos. Dans Matthieu 7, 18, hein? Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Il dit également, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » au verset 20. Bon ou mauvais. Et voilà comment il arrive. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Il porte du fruit. Matthieu 13, 23. Alors, pour vraiment être en paix les uns avec les autres, il faut premièrement être animé des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dont le fruit de l'Esprit, qui produit la paix. Mais voici l'état de la situation. Il faut regarder ça. Il y a deux volets à considérer. Mon premier. Premièrement, le monde n'est pas en paix parce que le monde est en conflit avec Dieu. Le monde est en conflit avec Dieu. Et le deuxième constat, l'Église comme collectivité ne sera pas en paix dans son intérieur, hein, et ne pas confondre avec la persécution qui vient de l'extérieur. On parle de son intérieur. Si les croyants qui la forment, les croyants qui forment l'Église ne sont pas en paix les uns avec les autres, parce que les croyants manquent d'intimité avec Dieu. Ça, c'est mon deuxième volet que je vais y revenir plus tard. Regardons le premier volet. Il est impossible d'être animé des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et produire le fruit de l'Esprit, Je parle de produire le fruit de l'Esprit pour sa gloire, pour son honneur et pour son nom. C'est important de faire la différence parce qu'il y en a qui vont être capables de ces choses-là, mais ils ne le font pas au nom de Jésus-Christ et ni pour son honneur. Donc, ces choses-là ne valent rien en bout de ligne. Si vous ne le connaissez pas, c'est impossible de produire le fruit de l'Esprit. Si vous ne le connaissez pas, le monde ne le connaît pas. Et pour le connaître, il faut savoir. Savoir et reconnaître vraiment qui est Jésus. C'est-à-dire, comme il est écrit dans la parole, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, versets 9 à 11. Sortez de la confusion qui vous étouffe la vie. La confusion qui met des idoles dans vos vies. La confusion qui vous fait croire parfois qu'il n'y a aucun espoir. Soyez réconciliés avec Dieu, une fois pour toutes. Ayez cette paix en vous qui vient de lui. Et c'est exactement ce qui est arrivé à un des deux malfaiteurs qui ont été crucifiés de chaque côté de Jésus. Vous savez, on entend souvent le bon et le mauvais malfaiteur. C'était deux malfaiteurs. C'était deux mauvais gars. Mais il y avait une différence. L'autre avait quelque chose de particulier. Et on veut regarder ce matin ce dialogue que l'on peut retrouver dans Luc chapitre 23. Il y en avait un qui se moquait de Jésus, comme tous les autres qui étaient en bas au pied de la croix qui se moquaient de lui. Celui qui était crucifié à côté, lui, se moquait de lui. Même chose. Mais l'autre, il dit, il reprenait son partner. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Voyez-vous, dans son cœur, celui-là croyait que Jésus était Dieu. Ne crains-tu pas Dieu, tu subis la même condamnation que lui. Il a confessé de sa bouche en disant, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il admet son péché et qu'il mérite la mort à cause de son péché. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le malfaiteur, il n'était pas stupide, là. Il savait bien, là, en regardant Jésus dans la condition dans laquelle il était crucifié, là, le malfaiteur savait que dans quelques heures, ce gars-là, il allait mourir. Mais voyez-vous, dans sa déclaration, il proclame sa résurrection. Il dit, souviens-toi de moi. Parce qu'il allait mourir, mais ressusciter. Quand tu reviendras, il proclamait même son retour, quand tu reviendras dans ton règne. Et j'ai hâte de le rencontrer, ce frère-là. Et Jésus pour lui répondre, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, ça a été une double bonne nouvelle pour cet homme-là. On comprend qu'il était sauvé de par ce qu'il croyait dans son cœur et ce qu'il avait confessé de sa bouche, il était sauvé. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le malfaiteur savait qu'il allait mourir dans quelques heures, parce que parfois le supplice de la croix pouvait s'étaler sur quelques jours. Alors il disait qu'il allait mourir aujourd'hui. Ça, c'était une autre bonne nouvelle pour lui. Donc, il était sauvé, c'est-à-dire qu'il avait cette certitude qu'il allait au ciel dans la présence de Dieu, même s'il n'avait pas eu le temps de produire du fruit. Sachez qu'à partir du moment où vous croyez dans votre cœur et confessez le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que nous devenons une même plante avec Christ. Romains 6, 3. Hey, Ça, ça va donner des vraies tomates. Car c'est par Christ et avec Christ seul qu'on peut produire le véritable fruit de l'Esprit, parce que le véritable grand V habite en nous. L'autre volet de son énoncé, l'énoncé, j'ai mentionné tantôt, si nous le connaissons mal, c'est-à-dire, là, je m'adresse à ceux qui ont cru, les croyants, qu'on le connaît mal, un sens de manque d'intimité avec la personne de Christ. C'est comme, moi, je connais Justin Trudeau. C'est le premier ministre du Canada. Beau bonhomme, marié, 3 enfants, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il met sur ses toasts le matin. J'ai aucune idée c'est quoi ses allergies. Je ne suis pas intime avec. Je connais, je sais c'est qui, mais aucune intimité. Je connais aussi Piqué Souban. Je sais que c'est le meilleur gardien de but des Capitals de Winnipeg. Bon, OK, je sais que c'est un joueur de hockey. Ça va bien, hein? Mais le reste de mes connaissances sont défaillantes. OK? Donc, tout cela fait en sorte que ça peut être tragique. Ça peut être tragique si je mets du beurre de peanut sur les toasts de Justin un matin, puis je ne sais pas qu'il est allergique aux arachides. Ça peut être tragique. Comme ça peut être tragique si je participe à un quiz télévisé, puis la question à 50 000 $ concerne le hockey. Ça peut être tragique pour moi. Et ça peut être tragique si j'ai un sérieux désaccord avec un frère ou une sœur dans l'Église et je me laisse emporter dans un débat sans être animé du fruit de l'Esprit, de la patience, de la douceur et de la tempérance. Ça peut être tragique. Impératif que je demeure nourri de la présence de Dieu par sa parole quotidiennement. Et psaume 1 nous dit que cela va produire le bonheur et le plaisir. On connaîtra Christ davantage pour être animé de ses sentiments à lui. Et ce qui est encore plus tragique, et si vous quittez cette vie sur terre, sans avoir fait la paix avec Dieu. Alors, en conclusion, recevez maintenant dans votre cœur le Seigneur Jésus, si ce n'est pas fait, comme ce malfaiteur le fait sur la croix. Vous savez, on n'a pas tous le luxe de voir notre mort venir comme lui l'a vu. Et vous pourriez être en train de marcher en sortant d'un commerce, vous pourriez être en train de marcher sur un trottoir par un beau samedi matin et puis vous faire renverser par une camionnette qui arrive par derrière vous à 50 km/h. Vous n'avez pas le temps de rien voir venir. On ne sait pas quand ça arrive. Dites à Jésus ce matin que vous savez véritablement qui il est. Et pour nous qui l'avons déjà fait, pour nous qui l'avons déjà fait à un moment donné de notre vie, gardons sa parole, vraiment gardons sa parole près de notre cœur quotidiennement, afin de le connaître intimement et éviter les tragédies des conflits. Connaître Christ véritablement et intimement, ça va tous nous faire grandir et servir dans la paix. Que la paix qui vient de Dieu soit avec nous tous, frères et sœurs, et que Dieu fasse de nous des ouvriers de paix, qu'on soit tous des ouvriers de paix dans son Église. Alors, j'ai demandé à notre équipe musicale de nous interpréter ce chant, « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Si Gabriel, tu peux rappeler ton team, on va chanter ensemble «